VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel du lundi 7 janvier 2019. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Coup d'état manqué au Gabon, le chef du commando a été arrêté et le calme est revenu à Libreville.
Pour le moment, la situation indique un retour au calme et sous contrôle confirmé par le gouvernement. Pour ce qui est des populations, la plupart d'entre elles sont tirées chez elles.
En RDC, toujours pas de résultats, plus d'une semaine après les élections du 30 décembre. En Gambie, début des audiences de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Ici aux États-Unis, le shutdown qui a entraîné la paralysie partielle du gouvernement entre dans sa troisième semaine. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout de suite le journal. Bienvenue à tous. Coup d'état manqué au Gabon. Des militaires ont tenté de soulever la population en prenant le contrôle de la radio-télévision nationale en l'absence du président Ali Bongo Ondimba en convalescence à l'étranger. Le gouvernement a assuré avoir arrêté le chef du commando. Plus de détails avec Raissa Girondin.
Le chef du commando, qui s'est présenté comme étant le lieutenant Ondo Obiang Kelly, commandant adjoint de la garde républicaine chargé de la protection de la présidence, a été arrêté et deux autres membres ont été tués selon la présidence. Les six membres du commando sont apparus à l'aube à la radio nationale à Libreville, appelant à un soulèvement et annonçant la prochaine formation d'un Conseil national de restauration de la démocratie. La situation est sous contrôle et les forces de sécurité ont été déployées à Libreville, a déclaré le porte-parole du gouvernement Guy Bertrand Mapangu. L'Union africaine a fermement condamné la tentative de coup, réaffirmant le rejet total de tout changement inconstitutionnel de pouvoir. Paris a également condamné cette tentative de coup d'État, appelant au strict respect de la Constitution.
Et pour plus de détails sur cette tentative de coup d'État au Gabon, Raissa Girondin a joint à Libreville notre confrère journaliste Ismaël Obiangze.
Ce groupe a fait donc une intrusion dans le studio de la radio nationale pour y faire passer un message. Alors que l'équipe d'astreinte de cette radio, l'équipe d'astreinte de la matinale, composée d'un journaliste et de quelques techniciens, se préparait au journal de 6 heures. Pris de panique, nos confrères leur ont cédé le studio pour une annonce d'à peine plus de 3 minutes. L'opération de ce groupe d'insurgés a duré, par exemple, à peu près plus de 5 heures d'horloge, avant d'être très vite neutralisée par l'unité d'élite de la garde républicaine. En rappel, les heures qui ont suivi la diffusion de ce message, quelques manifestants ont tenté d'investir la rue pour y ériger des barricades, à la suite de quoi l'armée qui patrouille la ville depuis les premières heures de la matinée est intervenue pour dégager toutes les barricades.
Un mot sur ces soldats et leurs revendications, sait-on précisément qui ils sont et qu'est-ce qu'ils voulaient?
On sait très peu de choses de ce groupe d'insurgés qui dit agir sous le couvert d'un mouvement patriotique des jeunes des forces armées gabonaises dirigé par le lieutenant Kelly Ondo Obiang. Dans leur message, on retient pour l'essentiel qu'ils étaient déterminés à restaurer l'ordre constitutionnel parce que très peu convaincus selon eux des capacités du chef d'État actuel. Convalescent à Rabat au Maroc. Je précise que leur opération d'aujourd'hui, très tôt ce matin, intervient donc quelques semaines après l'adresse du chef de l'État depuis Rabat au Maroc, indiquant à l'intérieur qu'il se remettait de sa maladie et qu'il sera bientôt de retour au pays.
Alors effectivement, le président Ali Bongo n'est pas sur le territoire en ce moment. Est-ce une alerte pour le pouvoir?
Oui, ça semble l'être. Il y a comme un malaise, mais qui ne dit pas son nom au sein de la grande minette. Ça pourrait donc être une alerte et certainement que les prochains jours nous en dirons un peu plus davantage.
Quelle est la situation actuelle sur le plan local?
Pour le moment, la situation indique un retour au calme et sous contrôle confirmé par le gouvernement. Pour ce qui est des populations, la plupart d'entre elles sont tirées chez elles. Les rues sont quasi vides. Les commerces qui sont restés fermés depuis le matin lèvent progressivement les rideaux. Et seule une enquête militaire pourrait situer l'opinion encore dubitative sur les motivations de ce putsch raté, alors que Libreville reste plongée dans la torpeur.
C'était Ismaël Obiangze, journaliste à Libreville. Le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé une réunion sur l'élection présidentielle en République démocratique du Congo à la demande de l'Afrique du Sud, après le report de l'annonce des résultats par la commission électorale. C'est ce qu'ont indiqué ce lundi des diplomates à New York. La réunion publique prévue initialement demain mardi devrait finalement se tenir vendredi, selon des diplomates au Conseil de sécurité. Ses membres s'étaient réunis vendredi à huis clos à la demande de la France, mais les différentes puissance n'avait pas réussi à s'entendre sur un communiqué de presse avant la publication des résultats en République démocratique du Congo. Et sur place en RDC, l'annonce du report de la publication des résultats provisoires de la présidentielle continue de susciter des réactions. Le Front commun pour le Congo, qui soutient Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat de la majorité présidentielle, estime que le report est justifié. Des détails avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous sommes à 53% de compilation des résultats. Le travail n'est pas terminé. Impossible donc d'annoncer les résultats ce dimanche comme prévu, a annoncé le président de la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nanga a maintenu davantage le flou en affirmant ne pas pouvoir dire quand les résultats provisoires seront disponibles. Peuple congolais, soyez calme. J'entends dire par chacun des camps qu'ils sont en tête, mais cela n'a aucune valeur car seule la CENI peut publier les résultats. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner les vrais résultats. Le peuple sera content d'avoir ce résultat, a par ailleurs précisé puis promis le président de la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nanga, qui annonce également être l'objet des menaces nationales et internationales, déclare qu'il n'acceptera aucune menace et demande de laisser le travail de la CENI se faire en toute indépendance. Kinshasa, Thierry Gambondi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et puis toujours en RDC, un collectif catholique a dénoncé la complicité entre la coalition au pouvoir et la commission électorale. Selon un communiqué du comité laïque de coordination ce lundi, en s'attaquant à l'épiscopat de manière agressive et injustifiée, le Front commun pour le Congo et la CENI confirment aux yeux de tous leur complicité de toujours. La semaine dernière, la conférence épiscopale nationale du Congo avait affirmé connaître le vainqueur de la présidentielle du 30 décembre. La commission Vérité et Réconciliation en Gambie, chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant les 22 ans du régime de l'ex-président Yahya Jammeh, a entamé ce lundi ses auditions deux ans après le départ du pouvoir de Yahya Jammeh. Cette commission, lancée en octobre et formée de 11 membres, a auditionné son premier témoin, Ibrahima Tiongane, responsable de la police pendant le coup d'État ayant porté au pouvoir Jammeh. C'était en 1994. Il a affirmé bien connaître Yahya Jammeh pour l'avoir formé dans la gendarmerie. Il le qualifie de soldat indiscipliné et de comploteur permanent. Nous y reviendrons en partie magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait jeudi à la frontière avec le Mexique, alors qu'il n'y a toujours pas de fin annoncée du shutdown. Il a réaffirmé sa volonté de construire un mur à la frontière avec le Mexique. Le point avec John Lyndon.
En l'absence d'accord sur une loi budgétaire entre républicains et démocrates, la paralysie partielle de l'administration fédérale est entrée dans sa troisième semaine. Quelques 800 000 fonctionnaires sont touchés. Des musées ont été contraints de fermer leurs portes et des ordures s'entassent dans les parcs nationaux. Nous devons construire le mur. Il s'agit de la sécurité de notre pays. Nous n'avons pas le choix, a martelé le président américain dimanche depuis les jardins de la Maison-Blanche, avant de s'envoler pour Camp David, où il a passé la journée avec ses conseillers. Ne s'attendant pas à une avancée de taille lors des négociations menées sous l'égide du vice-président Mike Pence, M. Trump a annoncé des discussions de fond à venir dès ce lundi, mardi et mercredi. Il réclame plus de 5 milliards de dollars pour construire un mur le long de la frontière avec le Mexique. Le président américain a de nouveau évoqué, sans s'y attarder, la possibilité d'avoir recours à une procédure d'urgence qui lui permettrait de débloquer les fonds en contournant le Congrès.
Le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza annonce avoir repris le contrôle du poste frontière de Rafah au lendemain du retrait des fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Le Hamas explique que c'est pour ne pas laisser les lieux vides. Rafah est le seul point de passage entre la bande de Gaza et le reste du monde à ne pas être sous le contrôle d'Israël. Polémique en Irak après les révélations de la visite de responsables irakiens en Israël. Le numéro 2 du Parlement irakien a réclamé une enquête pour identifier ces responsables ayant franchi, selon lui, une ligne rouge. L'annonce sur le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères israélien de la visite de 3 délégations irakiennes en Israël l'année dernière, puis les détails donnés par les médias israéliens ont aussitôt provoqué des remous en Irak, toujours techniquement en état de guerre avec l'État hébreu qu'il ne reconnaît toujours pas. Et puis en Afghanistan, des combattants talibans ont attaqué 2 postes de contrôle dans l'ouest du pays, tuant au moins 10 membres des forces de sécurité et d'une milice pro-gouvernementale en 24 heures. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique sur le continent, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Nanit Talani.
En République démocratique du Congo, la société minière de Bisunzu, le plus grand mineur de coltan dans ce pays, quitte le programme de certification ITSCI en raison des coûts qui vont de 130 à 180 dollars par tonne. Ce système a été conçu pour garantir que les minéraux exploités n'ont aucun lien avec le financement des conflits, la corruption, le travail des enfants ou d'autres violations des droits de l'homme. Malheureusement, de nombreuses entreprises se plaignent que les frais de l'ITSCI sont devenus de plus en plus chers, mais elles hésitent à se retirer du programme en raison de crainte de ne pouvoir vendre leurs minéraux sans la certification ITSCI. En Tunisie, les revenus du tourisme ont augmenté de 45% pour atteindre 1,36 milliard de dollars, alors que le pays a enregistré un nombre record de 8,3 millions de visiteurs. L'industrie touristique représente 8% du produit intérieur brut de la Tunisie. Terminons avec la BAD qui vient de garantir 149 millions de dollars de crédit à des projets d'énergie renouvelable et d'agro-industrie en Ouganda, au Soudan et au Cameroun, entre autres. Des lignes de crédit ont également été ouvertes à cet effet au profit du Mali et du Libéria, révèle l'agence Ecofin. L'octroi de cette garantie a été fait avec la participation de la facilité de bonification du crédit du secteur privé.
Présent la page de sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La Guinée accepte l'organisation de la CAN 2025.
Les présidents du Cameroun et de la Guinée ont accepté le glissement du calendrier de l'organisation des prochaines CAN. Il reste à rencontrer le président de la Côte d'Ivoire, a affirmé le président de la CAF Ahmad. Il était en visite hier à Conakry avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Initialement, la Guinée devait abriter la CAN 2023, telle qu'attribuée sous la présidence d'Issa Hayatou. Sauf qu'avec le retrait de la CAN 2019 au Cameroun et l'annonce de l'organisation de la CAN 2021 par le pays des Lions Indomptables, toutes les cartes sont redistribuées.
Le gratin du football africain est présentement à Dakar.
Oui, les légendes du ballon rond africain se sont donné rendez-vous dans la capitale sénégalaise pour les CAF EO que le Sénégal accueille demain. Face à la presse hier, ces stars africaines ont estimé que les dirigeants doivent faire plus pour le développement du football en Afrique. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagé, a assisté à leur conférence de presse. Voici son compte-rendu.
Samuel Etoufis, El Hadj Diouf, Habib Bey, Nwanko Kanou et d'autres légendes du football africain sont d'avis que l'Afrique doit mieux se positionner sur l'échiquier du football mondial. El Hadj Diouf, ancien attaquant sénégalais et double ballon d'or africain, estime que les dirigeants doivent mettre en place des infrastructures pour permettre aux jeunes talents de s'épanouir.
Parce que ce qu'un footballeur a besoin, c'est pas un terrain où tout le monde joue. Un footballeur a besoin, le plus important pour un footballeur, c'est d'avoir son terrain d'entraînement.
Le Camerounais Samuel Etoufis abonde dans le même sens. Pour le
quadruple ballon d'or africain, les jeunes joueurs quittent l'Afrique parce qu'ils ne sont pas mis dans des conditions de performance.
Si certains joueurs peuvent décemment vivre de leur passion qui devient à un moment donné leur boulot en Afrique, évidemment, ils resteront chez eux.
À l'occasion des CAF Awards, les légendes africaines ont fait un plaidoyer pour que les conditions des joueurs locaux soient améliorées. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Demain, on connaîtra le ballon d'or africain 2018.
Oui, trois finalistes sont en lice, le même trio que l'année dernière. Le Gabonais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, et son coéquipier en club, l'Égyptien Mohamed Salah, tenant du titre.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Et on passe au dossier du jour. De nombreuses réactions à Kinshasa après l'annonce hier par la Commission électorale nationale indépendante de renvoyer à une date ultérieure la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre. À l'opposition comme à la majorité, on se montre impatient et la population qui a hâte de connaître le nom de son nouveau président de la République demande à Corneille Nangaa, le président de la CENI, de ne pas maintenir le suspense encore plus longtemps. C'est un reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La CENI va annoncer les résultats dès qu'il aura consolidé tous les prix venus des différents bureaux de vote. Entre-temps, elle ne le fera jamais sous la pression.
Nous ne sommes pas prêts, mais nous ne publierons pas non plus les résultats sous la pression, a déclaré dimanche Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante. En réaction à ce report de la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre 2018, Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du président Joseph Kabila et cadre du Front commun pour le Congo, se dit confiant malgré tout.
Nous sommes sereins et confiants. Nous attendons. Il faut laisser à la CENI le temps de faire un travail convenable. Nous n'allons pas être parmi ceux qui font pression.
Jean-Baudin Maillot de Cap pour le changement. La coalition qui a porté Félix Tshisekedi à la présidentielle comprend la décision de la CENI, mais le secrétaire général de l'UNC demande à Corneille Nangaa de faire un travail sérieux et objectif.
Nous comprenons report, mais nous disons que la CENI doit éviter d'agir à la légère. La CENI doit respecter ses propres engagements. Finalement, nous nous comprenons parce que la réalité du terrain est que le travail n'est pas fini.
Pour sa part, Prince Pengé de la coalition Lamouka de Martin Fayoulou fait preuve d'impatience.
Nous appelons M. Nangaa à comprendre qu'il n'a pas le droit de jouer avec l'avenir des 80 millions d'âmes et de procéder à la publication des résultats très 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 vite.
Intervenant sur ce même sujet, le ministre du Développement Rural, Justin Bitakwira, appelle lui toutes les parties à l'apaisement et s'insurge contre le dictat étranger.
Que les FCC s'apaisent, que les amis de l'opposition s'apaisent et que les pays étrangers qui n'ont contribué un seul rang à nos élections, qui se prononcent aux élections qui les concerne et pas aux élections de la République démocratique du Congo.
Ce suspense qui se prolonge n'est pas non plus du goût des Kinois interrogés par Top Congo FM.
Selon moi, c'est une crise d'organisation que la CENI doit revoir pour satisfaire la population. Parce que la population est vraiment dans l'impatience d'attendre le résultat.
Je suis choqué parce qu'en voyant la décision du président de la CENI, ce n'est pas normal parce que le résultat ne peut pas être reporté. Ils ont reporté la date pour la vote. Et sur le résultat, ils ont encore reporté. Ils veulent nous amener où?
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, l'opposant Succès Masra a répondu ce lundi à une convocation du parquet de N'Djamena. Cet ancien économiste de la Banque africaine de développement a lancé en avril dernier son mouvement politique Les Transformateurs. Il s'est donné comme objectif une transformation radicale du Tchad à travers la mobilisation des Tchadiens de tous les bords. Au micro de Timothée Donangbaye, Succès Masra parle d'abord de sa convocation de ce lundi.
Quand le procureur vous convoque, normalement, ça doit relever de l'ordre du pénal. Donc, je n'ai pas eu d'éléments pénal qui me soit notifié. Ce qui est apparu, c'est que j'apprenais là-bas que, en fait, entre celui qui a établi la convocation et le procureur, il n'y avait pas d'éléments tangibles qui me soient notifiés. Moi, j'ai pris ça sous forme d'un peu de boutade et d'humour en ce début d'année pour dire peut-être le procureur voulait juste me présenter les vœux. C'est pour ça qu'il m'a convoqué. C'est un peu comme ça que je l'ai pris, mais il n'y avait pas eu de notification particulière. Après, j'apprends par médias interposés que certains n'ont pas apprécié mes interventions, notamment une tribune que j'aurais publiée relativement à la nécessité de faire en sorte que les questions de développement dans notre pays soient élevées au même rang que les questions de sécurité. Que nous ne pouvons pas oublier les questions de développement dans un pays qui, en tout cas, est classé dernier au monde en termes de développement. Et je vois des milliers de jeunes formés qui ont la certitude simplement du chômage comme perspective. Je vois un pays dans lequel il y a peut-être 3 Tchadiens seulement sur 100 qui ont accès à l'électricité, à l'eau potable, le quartier populaire dans lequel je suis actuellement quand je vous parle, un arrondissement de 500 000 personnes, 90% de cet arrondissement n'a même pas l'eau potable.
Avez-vous quelques soucis par rapport à vos activités?
Nous faisons en sorte d'avancer, d'avoir de la pédagogie, d'expliquer à nos compatriotes un autre chemin est possible, qu'une troisième voie est possible dans ce pays, celle de tous les Tchadiens venant de tous les bords, chrétiens et musulmans, nordistes et sudistes, les Tchadiens de l'intérieur de la diaspora, ceux des milieux urbains et des milieux ruraux, des gens qui aiment ce pays, qui viennent de partout. Je dis d'ailleurs y compris ceux qui ont travaillé avec le pouvoir actuel, et qui souvent reconnaissent d'ailleurs en privé que nous devons changer des choses, mais qui n'ont pas eu le courage de le dire en public, qui ne réussissent pas à pouvoir le dire en public. Donc, nous essayons d'expliquer, évidemment, dans n'importe quelle société, ici au Tchad ou ailleurs, vous savez bien que le statu quo arrange certaines personnes. L'absence de changement arrange certaines personnes. Donc ceux qui profitent d'un système comme celui-là peuvent être tentés justement de garder le statu quo. Donc ceux-là, ils existent. Mais je ne veux pas regarder de ce côté. Je voudrais regarder en tant que transformateur du côté de cette espérance, ces milliers, ces dizaines de milliers de Tchadiens qui nous rejoignent. Chaque jour, ils viennent de tous les bords de notre pays. Cela, c'est une espérance incroyable. Donc je voudrais consacrer mon énergie positive avec ceux-là qui sont de plus en plus nombreux, quitte à ce que nous expliquions et que nous donnions la pédagogie nécessaire pour permettre en tout cas à davantage de Tchadiens de croire dans ce projet de transformation de notre pays.
C'était Succès Masra, initiateur du mouvement politique Les Transformateurs à N'Djamena. En Gambie, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation a ouvert ses audiences pour faire la lumière sur les crimes commis sous le régime déchu. Le premier témoin a été entendu aujourd'hui. Il s'agit de Ibrahim Tchongan, ancien responsable de la police pendant le coup d'État qui, en 1994, a porté au pouvoir l'ex-président Yahya Jammeh. Amnesty International parle d'un grand pas vers la justice, la vérité et les réparations en Gambie. Et pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Dakar la chargée des campagnes en Afrique de l'Ouest, Martha Colomer.
Pour la vérité aussi, parce qu'on croit que cette audience, c'est une grande opportunité pour faire que la vérité soit rendue publique et que les victimes ont l'opportunité aussi de raconter les violations des droits de l'homme qu'ils ont souffert pendant 22 ans.
Ça va se limiter au niveau de la réconciliation où les responsables du crime seront jugés?
Dans le mandat de cette commission, il n'y a pas aucune responsabilité par rapport à juger ces responsables de violation, mais ça ce n'est pas incompatible avec des processus judiciaires qui peuvent commencer. On espère que de cette audience, il va sortir beaucoup d'informations, informations qui va être très utile pour commencer avec le processus judiciaire pour faire que tous les gens qui sont responsables de violations systématiques des droits de l'homme soient portés devant de la justice.
Comment faire en sorte que le travail de cette commission ne soit pas perçu comme une forme de règlement des comptes?
Le mandat de la commission, il n'a rien à voir avec la justice. Ça, c'est des institutions de la justice pour être sûr que les responsables vont rendre compte pour ce qu'ils ont fait.
Quels sont les grands défis, d'après vous, qui attendent de cette commission?
On croit que ça sera important de donner l'opportunité à tout le monde qui souffre ces violations de participer dans ces audiences. C'est pour ça que c'est important ce que la commission pense à faire, de voyager pour le pays, pour donner l'opportunité à tout le monde de s'exprimer librement. C'est important que les gens sentent cette confiance pour y aller, pour parler et pour exprimer ce qu'ils ont souffert. Et on pense aussi, comme un défi, c'est important que les gens comprennent bien quel est le mandat de la commission, parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Les gens attendent beaucoup de choses de cette commission, quand le mandat il est très précis, surtout par rapport aux réparations.
Est-ce qu'elle est dotée d'assez de moyens pour faire son travail, tel qu'est décrit dans le mandat?
Depuis que la commission elle a été créée, il y avait beaucoup de décalage par rapport à la mise en œuvre des activités, parce qu'il y avait un problème budgétaire. C'est très ambitieux par rapport au mandat et ce n'est pas facile d'avoir toutes les ressources. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'organisations internationales et de pays qui vont supporter financièrement cette commission et on espère que finalement il y aura les moyens pour pouvoir dérouler tous les mandats.
La chargée de campagne en Afrique de l'Ouest pour Amnesty International, Martha Colomer.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le président guinéen Alpha Condé a refusé de promulguer le code civil voté au Parlement le 29 décembre et qui rétablit la polygamie. Il a renvoyé le texte pour une seconde lecture en raison du rétablissement de la polygamie officiellement interdite depuis 1968. Lors du vote de ce code révisé, toutes les femmes députées se sont abstenues. Nathalie Barge a recueilli la réaction de Aissata Dafé, députée de l'UFR, l'Union des forces républicaines de l'opposant Sidi Touré.
Pratiquement tous ceux qui sont avec nous au niveau du Parlement, des hommes, des députés, sont des polygames. Et certainement, lorsqu'ils sont monogames, ont peut-être aussi l'intention d'être polygames. Donc, on a rencontré beaucoup de difficultés avec l'association de beaucoup d'ONG féminines qui se battaient avec nous. Heureusement pour le Forum des femmes parlementaires, qui s'est refusé de voter pour ce code. Et en totalité, toutes les femmes parlementaires se sont abstenues. Et nous saluons que le chef de l'État ait refusé de promulguer le code en son état actuel.
Toutefois, comme le président Alpha Condé l'a renvoyé en seconde lecture, cette fois-ci, dites-moi si je me trompe, le seuil sera relevé à la majorité des deux tiers. Donc ça sera encore plus difficile pour vous.
Pas pratiquement, parce que la majorité aujourd'hui au niveau du Parlement, c'est le parti au pouvoir dirigé par le professeur Alpha Condé. Et j'espère que nous continuerons, nous les femmes, nos plaidoyers, le groupe des libéraux de Bakra aussi se sont abstenus, et nous espérons que notre plaidoyer va continuer au sein de tous les groupes parlementaires pour ramener le maximum des députés en faveur du statu quo. Et le Forum des femmes parlementaires fera tout en son possible pour pouvoir gagner cette bataille, appuyé par les ONG, appuyé par WAF Africa, qui a toujours été de nos côtés pour pouvoir travailler dans ce sens-là.
Qu'est-ce que vous prévoyez pour arriver à convaincre les autres députés?
Nous allons expliquer pourquoi ils doivent être à notre côté, en leur expliquant de respecter le protocole de Maputo. C'est un instrument sous-régional qui est le plus récent où les questions de droits des femmes en Afrique sont expliquées et qui s'inscrit réellement dans son article 6 relatif au mariage. Il faut donner la primauté à la monogamie. Deuxièmement, il faut voir toutes les conséquences de cette polygamie que nous vivons tout quotidiennement en Guinée. Les drames qui se passent dans les familles polygames, que ce soit au point de vue succession, au point de vue héréditaire, c'est des problèmes qui sont continus. Ensuite, avec la maladie du siècle, un jeune qui se marie, aujourd'hui qui se dit « je suis monogame ». Mais aujourd'hui, à partir du moment où les députés nous ont donné la latitude de nous marier, ce sont nos enfants. Il faut penser à cela. Donc ce sont des arguments vraiment que nous trouvons pour leur expliquer que la polygamie, ça n'a pas sa raison d'être aujourd'hui. Ils doivent comprendre.
C'était la parlementaire guinéenne Aissata Dafé.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92.
4-0. Je répète, 225-5892-4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.